voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Dans cette émission, des académiciens racontent l'histoire. Nous allons rester dans la précision historique et la magie du verbe de Voltaire, qui évoquera l'attentat contre la personne du roi le 5 janvier 1757 par un certain Robert François Damien. Mais tout va commencer dans un instant sous la plume de l'historien Pierre Gaxotte de l'Académie française, qui a magnifiquement décrit dans son livre « Louis XV » paru en 1980 chez Flammarion, le sacre du jeune roi Louis XV. Louis XV, né à Versailles le 15 février 1710, mort à Versailles 64 ans plus tard, le 10 mai 1774. Dans l'immédiat, vivons ensemble la rencontre entre le tsar Pierre le Grand et le jeune roi Louis XV, qui lui n'a que 7 ans. Nous allons écouter ce texte dans la voix et l'interprétation du comédien Michel Girard.
Le 7 mai 1717 était arrivé sur les 10 heures du soir le tsar Pierre le Grand, qui logea à l'hôtel Lesdiguières où tout était disposé pour le souper. Le 10, accompagné du duc du Maine et du maréchal de Villeroy, le roi alla visiter le tsar, qui fut le recevoir à son carrosse et lui donna la main. Il était entouré de son chancelier, de son ambassadeur, de ses principaux officiers. De nombreux seigneurs accompagnaient le roi. Le tsar lui baisa la main, le souleva de terre pour l'embrasser tendrement, mania sa chevelure blonde et fut charmé de voir un si beau prince. Le roi lui souhaita la bienvenue avec une gravité et une présence d'esprit dont chacun fut étonné. Le tsar remercia avec noblesse. Le lendemain, il se rendit aux Tuileries pour visiter le roi. Les jours suivants, on le promena un peu partout à Paris et autour de Paris. Le 18 juin, il alla dire adieu au petit Louis, et celui-ci, le lendemain, vint lui souhaiter bon voyage. « On ne peut montrer, dit Saint-Simon, plus d'esprit, de grâce ni de tendresse pour le roi que le tsar n'en fit paraître en toutes ses occasions. » Le 20, il partit pour Spa, où l'impératrice l'attendait.
Pierre Gaxotte nous fait assister maintenant au sacre du jeune roi Louis XV, comme si nous y étions.
Ayant transporté sa résidence à Versailles en juin 1722, il devait faire sa première communion au lieu de sa naissance. Le roi trouva tous les jeunes gens du lieu vêtus comme pour un jour de fête, avec des touffes de rubans bleus et blancs qui entourèrent son carrosse et ne le quittèrent qu'après qu'il eut mis pied à terre pour monter dans son appartement. Il fut confirmé le 9 août et communia le 15. Selon Saint-Simon, fatigué par le bruit, les acclamations, les défilés, il essayait parfois de se cacher, mais Villeroy ne le laissait pas échapper. Le jour de la fête Dieu, le 4 juin, il lui fit même suivre à pied la procession de Saint-Germain-des-Prés. Il marchait entre les cardinaux de Rohan et de Polignac. Son sacre avait été fixé au mois de septembre. Mais les vignerons demandèrent qu'il fût remis, à cause de la vendange qui serait perdue par le nombre des troupes et des curieux qui devaient se rendre à Reims. Le roi quitta Paris le 17 octobre et arriva à Reims le 22, ayant couché ou s'étant reposé à Dammartin, à Villers-Cotterêts, à Soissons et à Fismes. À Reims, il habita à l'archevêché. Le temps fut très doux et le roi déclarait par tous les témoins aussi beau que l'amour. Le duc de Rohan lui présenta les clés de la ville, et il fit son entrée avec un immense cortège de troupes et de carrosses qui passèrent au son des cloches sous trois arcs de triomphe, célébrant l'amour, la paix et la prospérité. Louis se recueillit à la cathédrale et le lendemain alla prier dans plusieurs églises. La cathédrale avait reçu une ornementation magnifique. Les plus belles tapisseries de la couronne tendues jusqu'à la voûte, l'autel couvert d'une nappe de drap d'argent galonné d'or. Au-dessus du prie-dieu royal et du trône sur lequel devait s'asseoir le roi après son sacre, deux dais de velours violet brodés de fleurs de lys. On prétend qu'il y avait 8000 aunes, à peu près 10 kilomètres, de tapisseries tendues. Sur les autels, des châsses d'or garnies de diamants, contenant les reliques les plus précieuses, comme le chef de Saint-Louis. 6 cardinaux, 5 archevêques et 20 évêques prirent place les premiers, tandis que s'asseyaient les maréchaux d'Estrées, de Tessé et d'Ussel, qui devaient porter dans la cérémonie la couronne, le sceptre et la main de justice. Les religieux de Saint-Denis avaient apporté les ornements royaux dont ils ont la garde. Comme la cérémonie devait être très longue, plus de 6 heures, les chanoines de Reims étaient là depuis 6 heures du matin. À 7 heures, arrivèrent les pères laïcs en veste de drap d'or et manteau ducal, portant tous une couronne de vermeil sur un bonnet de satin violet. L'évêque-duc de Laon et l'évêque-comte de Beauvais furent alors députés pour aller quérir le roi. Ils passèrent par la galerie de bois construite depuis le portail de l'église jusqu'à la grande salle de l'archevêché, précédés des chanoines, d'une musique et du grand maître des cérémonies. Le sacre étant réglé jusque dans le plus minutieux détail, le chantre frappa à la porte de la chambre royale et l'évêque de Laon demanda Louis XV. Le prince de Turenne, grand chambellan, répondit « Le roi dort !» Le chantre frappa une seconde fois. Même réponse. Le chantre ayant frappé une troisième fois et l'évêque de Laon ayant dit « Nous demandons Louis XV que Dieu nous a donné pour roi !» Les portes furent ouvertes. Le roi, couché sur un lit de parade, était vêtu d'une chemise en toile de Hollande et d'une tunique de satin cramoisi, ouvertes toutes deux là où le roi devait recevoir les onctions. Par-dessus la camisole, on lui mit une robe en toile d'argent et il se coiffa d'une toque de velours noir enrichie de diamants. Un nouveau cortège se forme. En tête, les gardes de la prévôté de l'hôtel précédant le clergé, les cent suisses de la garde, les hautbois, les tambours et les trompettes de la chambre, les 6 héros d'armes en velours blanc, le grand maître des cérémonies, 4 chevaliers du Saint-Esprit, les huissiers de la chambre, enfin le roi entre les 2 évêques, suivi de son gouverneur, le duc de Charoste, le grand écuyer, le capitaine des gardes, le garde des Sceaux faisant fonction de chancelier, en toge fourrée de zibelines. Mortier en tête, le grand maître de la maison du roi, le grand chambellan, le premier gentilhomme de la chambre, enfin les gardes du corps. Pendant ce temps, la Sainte Ampoule était apportée en cérémonie de l'abbaye de Saint-Rémy, où elle est gardée. Après le Veni Creator, les évêques de Laon et de Beauvais ayant demandé le consentement du peuple et de l'assistance, l'archevêque de Reims reçut les 4 serments du roi. Promesse de protéger l'Église et d'exterminer les hérétiques. Promesse de gouverner le royaume en empêchant les rapines et les iniquités, en faisant observer la justice et la miséricorde dans les jugements. Promesse de maintenir l'ordre du Saint-Esprit et l'ordre de Saint-Louis institué par Louis XIV. Promesse de faire respecter les édits contre les duels. À genoux devant l'archevêque de Reims, il reçoit alors les 7 onctions. Un peu d'huile de la Sainte Ampoule mélangée au Saint-Crème sur une patine d'or. Les onctions se faisaient sur le sommet de la tête, sur la poitrine, entre les deux épaules, sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche, à la jointure du bras droit, à celle du gauche. Les évêques referment alors les ouvertures de la camisole et de la chemise. Le prince de Turenne donne au roi la tunique, la dalmatique et le manteau royal. Il se remet à genoux. L'archevêque lui fait la huitième onction sur la paume de la main droite, la dernière sur la paume de la main gauche. Le garde des Sceaux ayant appelé les pères présents à la cérémonie, l'archevêque de Reims prend sur l'autel la couronne de Charlemagne à portée de Saint-Denis, en réalité une couronne de Saint-Louis, et la met sur la tête du roi, ou plutôt au-dessus, car elle est soutenue par des pères, étant fort lourde et trop large pour la tête d'un enfant. On avait construit un jubé muni de deux escaliers, du côté de l'Évangile et du côté de l'Épître, le trône étant placé au milieu, bien en vue. Précédé, suivi de gardes et de seigneurs, Louis XV monte sur ce trône, ayant en main le sceptre et la main de justice. Le maréchal de Villars portant devant lui l'épée, le comte de Charolais la queue du manteau royal. On ouvre les portes de la cathédrale, le peuple entre en foule. Les héros d'armes distribuent dans le chœur et la nef une grande quantité de médailles d'or et d'argent frappées à cette occasion. Toutes les cloches de la ville sonnent en même temps. L'artillerie tonne, les régiments des gardes rangés sur le parvis font une triple salve. L'orgue et la musique du roi accompagnent le Te Deum, chanté par le clergé et les fidèles.
Pierre Gaxotte, de l'Académie française, au chapitre 13 de son livre intitulé Louis XV, paru en 1980 aux éditions Flammarion, dresse le bilan économique de la France à la fin du règne du roi Louis XV.
Combien la France avait-elle d'habitants comme Louis XV approchait de sa fin? Les administrateurs regrettaient de ne disposer que d'évaluations peu sûres. L'état civil, il est vrai, avait été organisé par l'ordonnance de 1579, dite ordonnance de Blois. Les curés qui en avaient la charge s'en acquittaient souvent avec négligence. Feuillets arrachés, registres perdus, signatures omises, etc. Aussi, en 1736, avait-il été ordonné qu'un double des registres serait déposé au greffe des bailliages. Mais comment utiliser les statistiques de naissance et de décès dont un tableau récapitulatif était publié en janvier de chaque année pour les 12 mois de l'année précédente. Meusens, dans ses recherches sur la population de 1766, multiplie le nombre des naissances par un coefficient fixe. Moho, secrétaire de l'intendant Montyon, qui fut intendant de Provence, d'Auvergne et du pays d'Aunis, écrivit, sans doute guidé par lui, un des premiers traités de démographie en langue française. Recherche et considération sur la population de la France en 1778. Il reconnaît que le manque de statistiques démographiques est une gêne constante pour la répartition des impôts, la levée de la milice, la rédaction des lois concernant l'économie. Mais, ajoute-t-il, un recensement général est une opération à peu près impossible, parce qu'elle doit être effectuée en même temps et en tout lieu, et que la monarchie ne possède pas une administration capable de faire ce travail. Et puis, ajoute Moho, il faut tenir compte de la prévention du peuple, qui lui fait voir des impôts et des projets de finances dans les spéculations qui y sont le plus étrangères. Le XVIIIe siècle a eu le goût de l'exactitude, du chiffre précis, des données exactes. Il est curieux de lire dans la correspondance de Voltaire, en 1757, plusieurs lettres sur le choix du coefficient par lequel est multiplié le chiffre des naissances. Son correspondant, l'ami Chaudière, alors intendant d'Auvergne, estime que le coefficient 34 est à retenir pour les villes où il y a des communautés religieuses, des séminaires et des collèges. Pour les bourgs et les petites villes, où il n'y a ni étrangers ni couvents, il ne faudrait multiplier que par 33 ou même par 32. Si je juge de tout le royaume par l'Auvergne, finit-il par conclure, il y a augmentation de peuple depuis le dénombrement de Monsieur de Vauban. Mohou arrive à une conclusion aussi favorable. En 74 ans, depuis le milieu du règne de Louis XIV, en dépit des guerres et des grands hivers, la population française, selon lui, s'est accrue de plus de 11%. La préoccupation principale du contrôleur général d'Audun, conseillé par les Paris, avait été de provoquer une baisse des prix par la raréfaction des moyens de paiement. C'est cette opération que les économistes appellent déflation. En 1724, le louis qui comptait pour 24 livres fut par étapes ramené à 14 à la fin de 1725, ce qui revient à dire que le montant de la monnaie en circulation avait presque diminué de moitié, sans que le nombre et le poids des pièces eussent changé pour cela. La déflation se heurta à une mauvaise volonté à peu près générale, car elle impliquait une baisse des salaires, une baisse de prix des stocks dans les fabriques et les magasins, une baisse générale des revenus, alors que les prix étaient rétifs. On eut recours à la rigueur, aux importations chocs, viandes achetées au dehors par l'État et revendues à perte. Finalement, Dodin dut annuler les diminutions et refaire en sens inverse le chemin parcouru. Fleury et le nouveau contrôleur général, le Pelletier d'Effort, eurent le mérite de comprendre que le meilleur moyen de rétablir les affaires était d'instaurer une monnaie stable, toujours égale à elle-même. Un arrêt du Conseil du 15 juin 1726 maintint pour 6 mois le louis à 24 livres et l'écu à 6. En décembre, prolongation pour 6 mois de l'arrêt de juin. 6 mois plus tard, nouvelle prolongation, et ainsi de suite. Enfin, le 11 novembre 1738, il fut décidé que l'arrêt était renouvelé une fois pour toutes. Pour la première fois dans son histoire, la France dispose d'un véritable instrument d'échange. La création du réseau routier accélère le rythme de la vie économique. Le transport des lettres et des marchandises devient plus facile et plus rapide. Mais pour que ce commerce intérieur se soutienne et se développe, il faut qu'il existe chez le paysan une mentalité d'acheteur et de vendeur. En effet, les paysans qui ont porté à la ville du blé, de la houille, du bois, ne reviennent plus leurs guimbardes vides. Ils rapportent au village du linge, de la quincaillerie, des objets de ménage, et ce fret de retour diminue le prix des transports. Selon les statistiques établies par les commis du contrôle général, le commerce extérieur a quadruplé de 1715 à 1787. Il est hors de conteste que Nantes est, sous Louis XV, le premier port négrier de France. Certaines années, ses armateurs transportèrent à Saint-Domingue 30 000 noirs. Cependant, ces messieurs du commerce ne manquent jamais de rappeler que leurs vrais bénéfices proviennent de la vente en Afrique en paiement des esclaves, des étoffes, des couteaux, de la verrerie, de la faïence, des eaux de vie et, en France, des retours des îles, tabac, sucre, indigo. C'est le fameux commerce triangulaire. Un historien de Nantes a pu établir que la traite n'occupait que le 5e ou le 6e de l'armement nantais du long cours. Notre commerce maritime souffrit moins des guerres anglaises parce qu'il se fit en grande partie sur des vaisseaux étrangers et neutres. L'accroissement de la population a augmenté le nombre des clients. Ce sont les commerçants qui poussent au développement de la production, au perfectionnement de l'outillage. Les marchands, en gros, ont été les agents de la révolution industrielle et cette révolution s'est faite contre les gens de métier, tout au moins malgré eux. Ce fut une grande victoire de la liberté que les deux arrêts du Conseil du 21 janvier et du 5 septembre 1759, autorisant l'entrée, le port, la libre fabrication de toiles peintes ou imprimées, prohibées depuis 1686. Par un phénomène imprévu, le capitalisme s'est servi de la campagne pour réduire les centres urbains. Les corporations n'avaient autorité que chacune dans sa ville. Il n'existait pas entre elles de confédération provinciale ou nationale. Or, les paysans occupaient les mois d'hiver et les soirées vides à des travaux de filature, de tissage, de coutellerie, de poterie, de menuiserie. Les grossistes s'emparèrent de cette main-d'œuvre par l'apport de gains plus élevés et ils la firent travailler pour l'exportation, lui fournissant modèles, outils, métiers perfectionnés. Le cultivateur continue à travailler chez lui, à sa guise, mais il n'est plus que le serviteur gagé d'un entrepreneur. Que tout soit réuni dans un seul bâtiment, et l'industrie moderne sera née. Manufacture de draps et de coton à Sedan, Amiens, Rouen, Reims, Louviers, Mulhouse. Le siècle est emporté par le vertige de la fortune. Période d'expansion dans tous les domaines, écrit l'historien genevois Herbert Lüthi. Et il ajoute « Cette prospérité qui a sans doute ses lacunes présente un équilibre et une harmonie remarquables. » Amorcée en 1732-33, la hausse des prix se prolongera jusqu'en 1817, c'est-à-dire pendant 84 ans. D'Angleterre arrivent les machines et les techniques nouvelles, la navette volante, la machine à cylindres, les calandres, la machine à tisser, la Jenny, enfin et surtout la fonte au couoc et la machine à vapeur, le système de Watt, sans laquelle la révolution industrielle n'aurait pu s'accomplir. Les taux de croissance des différentes branches de l'industrie sont surprenants. Ils vont de 72% dans la métallurgie à 738% pour les indiennes de Mulhouse. Il existe dans toutes les classes de la société un engouement pour les sciences et les arts industriels. L'encyclopédie, avec ses milliers de planches consacrées au métier, en est le témoignage éclatant. Louis XV fait exécuter par les membres de l'Académie des sciences de grands travaux de géodésie. Mesure du méridien, mesure de la transversale Brest-Strasbourg, carte générale de la France, à l'échelle d'une ligne par centoise, soit à peu près au 100 millième. On s'écrase aux cours publics de physique expérimentale, notamment à ceux de l'abbé Nollet au Collège de Navarre. En 1747, les expériences de décharge électrique obtenues par le moyen de la bouteille de LED font courir Paris. En 1750, l'Académie de Bordeaux couronne un mémoire où est démontrée l'analogie de la foudre et de l'électricité, analogie que Franklin redécouvrira. La chimie va naître. Les premiers articles de Lavoisier contre la phlogistique et les vieilles erreurs paraissent en 1773 et en 1774 dans le Journal de physique. Moins d'un an après la mort de Louis XV, il lit à l'Académie le mémoire où se trouve décrite l'expérience cruciale, celle de l'analyse de l'air. Les capitaux abondent, les affaires sont faciles. Toutes les formes d'associations en usage aujourd'hui sont couramment pratiquées. Ducs, princes, hommes d'affaires, banquiers mêlent leurs capitaux pour exploiter des charbonnages, commanditer des usines de produits chimiques. Eau de Javel, soude. Il importe toutefois de ne pas anticiper sur les années. Ce n'est que peu à peu que s'accomplira la concentration urbaine autour de la machine à vapeur, que sera créé le prolétariat urbain et renversée la distribution des classes. En 1774, il n'existe encore en France que 8 villes qui aient plus de 50 000 habitants. Paris, 500 ou 600 000, Lyon, Marseille, Bordeaux, qui doivent approcher de 100 000 à la fin du règne, Rouen, Lille, Nancy et Toulouse. Nombre de villes, à l'imitation de Paris, décidèrent la création de places royales, merveilleux chefs-d'œuvre qui commandèrent parfois l'extension future de ces cités. Naquirent entre autres les places monumentales de Dijon, de Lyon, démolies par la Révolution, reconstruites par Napoléon, de Montpellier, de Rennes, de Bordeaux, de Nancy, de Reims. Certes, il ne fut pas possible d'édifier toutes ces places de parade sur des terrains vierges. On dut raser quelques petites ruelles. Quand, en 1769, il fut question de créer une nouvelle place royale à Paris pour servir de cadre à la statue de Louis XV, une cinquantaine de projets furent élaborés par les architectes les plus brillants. Quelques-uns d'entre eux songèrent à détruire la place Dauphine, à réunir l'île Saint-Louis à celle de la Cité, puis à dessiner au centre de celle-ci une gigantesque place circulaire. Louis XV s'y opposa. Il ne voulait pas, déclara-t-il, que des quartiers marchands fussent dévastés et que la commodité et les intérêts d'un grand nombre de ses sujets fussent sacrifiés. Grâce à quoi, celle que nous appelons la place de la Concorde fut opportunément aménagée en dehors de la ville ancienne, en un site anonyme qui appartenait au roi et qui fut à jamais magnifié. Paris, qui a porté nombre d'industries de luxe, n'est pas à proprement parler une cité industrielle comparable à celle d'aujourd'hui. La France reste un grand pays agricole. En 1763, Bertin accorda la liberté de circulation des grains et farines à l'intérieur du royaume. En 1764, Laverdy établit la liberté d'exportation par 27 ports. Trois médiocres récoltes en 1766, 1767 et 1768 contraignirent Terray à revenir en arrière. Le 16 juillet 1770, l'interdiction de sortie fut prononcée et bientôt le prix du pain baissa. En 1774, on revint à la liberté. Pendant 4 ans, la France avait vendu à l'étranger 4 308 000 quintaux de blé et de seigle, sans que cet immense commerce ait provoqué des troubles. Cependant, assez peu de terres ont été gagnées à la culture et il n'y a pas eu un très gros accroissement des rendements céréaliers. Le grand effort du siècle va être d'abolir ce que François de Neufchâteau appelait l'opprobre des jachères. Au lieu de laisser la terre en friche entre deux récoltes de céréales, les agronomes vont lui faire porter d'autres végétaux capables de fouiller l'humus à des profondeurs différentes et ne demandant pas au sol la même proportion d'éléments chimiques. Avant tout, des légumineuses comme le trèfle, le sainfoin, la luzerne, puis des navets et des betteraves. La seconde amélioration consiste dans l'adoption de cultures nouvelles. Le maïs se répand dans le sud-ouest, la pomme de terre devient la grande ressource des pays où le blé rend peu, soit à cause du sol, soit à cause du climat. Auvergne, Pyrénées, Bretagne, Vosges. En même temps, le développement et les progrès de l'élevage créent une abondance de produits laitiers. Comme les économistes poussent à la production à outrance, deux questions se posent, très graves l'une et l'autre. D'abord, le partage des communaux. Comment s'accomplirait-il ? En donnant à chacun une parcelle de superficie égale ? En proportionnant l'importance des lots au montant des impositions ? Ensuite, la liberté de clore les héritages si la clôture est autorisée. Le propriétaire sera incité à apporter des améliorations à sa terre, mais la vaine pâture sera empêchée. Aussi le conseil se garde-t-il d'autoriser la clôture par mesure uniforme. À partir de 1767, Des arrêtés furent pris, un à un, pour la Lorraine, les trois évêchés, le Barrois, le Hainaut, la Flandre, la Champagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Roussillon, le Béarn et la Corse. Or, les trois dernières, les provinces visées appartiennent toutes au nord et au nord-est. De plus, dans la pratique, l'exécution des édits fut bien des fois retardée ou suspendue par les circonstances locales. Si les clôtures de prés furent nombreuses, elles ne prirent jamais en pays de la Bourg une bien grande étendue. Le Hainaut et le Bourbonnais herbagés sont devenus des pays de haies, mais les champagnes de l'Est, quelques îlots mis à part, demeurèrent à la fois des terres à blé et des terres ouvertes. Si l'on compare le sort de la classe paysanne française à celui des populations d'Europe centrale ou d'Angleterre, on est obligé de conclure que les paysans étaient en France plus heureux, plus riches et plus libres que partout ailleurs. Louis XV, qui parlait avec tant de respect des biens de la terre, dit une fois que les laboureurs représentait la portion la plus utile de la société. Ce souverain si frivole, qui mit si longtemps à affirmer sa volonté et à se révéler au pays, avait peut-être les goûts et le tempérament d'un cultivateur.
Notre émission se poursuit en compagnie du talent de Voltaire grâce à des extraits des chapitres 36 et 37 de son ouvrage intitulé « Œuvre complète précis du siècle de Louis XV » paru en 1819 chez l'éditeur Renoir. Son chapitre 36 portera sur les troubles intérieurs de la France de 1756 à 1763. Le chapitre 37 de ce même ouvrage « Œuvre complète » du siècle de Louis XV porte sur l'attentat contre la personne du roi. Rappelons que pendant trois ans, de 1744 à 1747, Voltaire est historiographe du roi Louis XV, puis il deviendra gentilhomme de la Chambre. Il sera élu le 2 mai 1746 à l'Académie française. La lecture de ces textes est assurée dans cette émission qui vous est donc proposée par Canal Académie dans sa série « Les académiciens racontent l'histoire » par le comédien Arnaud Victor. Voici donc le récit de l'attentat contre la personne du roi Louis XV sous la plume de Voltaire.
Parmi tant d'agitations qui troublaient tous les esprits au milieu d'une guerre funeste, la guerre de 7 ans contre la Prusse et l'Angleterre, dans le prodigieux dérangement des finances qui rendait cette guerre plus dangereuse et qui irritait l'animosité des mécontents. Enfin, parmi les épines des divisions semées de tous côtés entre les magistrats et le clergé, dans le bruit de toutes ces clameurs, il était très difficile de faire le bien. Et il ne s'agissait presque plus que d'empêcher qu'on ne fît beaucoup de mal. Attentat contre la personne du roi. Ces émotions du peuple furent bientôt ensevelies dans une consternation générale par l'accident le plus imprévu et le plus effroyable. Le roi fut assassiné le 5 janvier 1757 dans la cour de Versailles, en présence de son fils, au milieu de ses gardes et des grands officiers de sa couronne. Voici comment cet étrange événement arriva. Un misérable de la lie du peuple, nommé Robert François d'Amiens, né dans un village auprès d'Arras, avait été longtemps domestique à Paris dans plusieurs maisons. C'était un homme dont l'humeur sombre et ardente avait toujours ressemblé à la démence. Les murmures généraux qu'il avait entendus dans les places publiques, dans la grande salle du palais et ailleurs, allumèrent son imagination. Il alla à Versailles, comme un homme égaré. Et dans les agitations que lui donnait son dessein inconcevable, il demanda à se faire saigner dans son auberge. Le physique a une si grande influence sur les idées des hommes qu'il protesta depuis, dans ses interrogatoires, que s'il avait été saigné comme il le demandait, il n'aurait pas commis son crime. Son dessein était le plus inouï qui fût jamais tombé dans la tête d'un monstre de cette espèce. Il ne prétendait pas tuer le roi, comme en effet il le soutint depuis, et comme malheureusement il l'aurait pu. Mais il voulait le blesser. C'est ce qu'il déclara dans son procès criminel devant le Parlement.
Je n'ai point eu intention de tuer le roi. Je l'aurais tué si j'avais voulu. Je ne l'ai fait que pour que Dieu pût toucher le roi et le porter à remettre toutes choses en place et la tranquillité dans ses états. Et il n'y a que l'archevêque de Paris seul qui est cause de tous ces troubles. »
Cette idée avait tellement échauffé sa tête que dans un autre interrogatoire, il dit
« J'ai nommé des conseillers au Parlement parce que j'en ai servi un et parce que presque tous sont furieux de la conduite de Monsieur l'archevêque. »
En un mot, le fanatisme avait troublé l'esprit de ce malheureux, au point que dans les interrogatoires qu'il subit à Versailles, on trouve ses propres paroles.
Ils m'ont interrogé sur les motifs qui m'avaient porté à attenter à la personne du roi. J'ai toujours dit que c'est à cause de la religion, de la religion.
Tous les assassinats des princes chrétiens ont eu cette cause. Le roi de Portugal n'avait été assassiné qu'en vertu de la décision de trois jésuites. On sait assez que les rois de France, Henri III et Henri IV, ne périrent que par des mains fanatiques. Mais il y avait cette différence que Henri III et Henri IV furent tués parce qu'ils paraissaient ennemis du pape et que Louis XV fut assassiné parce qu'il semblait vouloir complaire au pape. L'assassin s'était muni d'un couteau à ressort qui d'un côté portait une longue lame pointue et de l'autre un canif à tailler les plumes d'environ 4 pouces de longueur. Il attendait le moment où le roi devait monter en carrosse pour aller à Trianon. Il était près de 6 heures. Le jour ne luisait plus. Le froid était excessif. Presque tous les courtisans portaient de ces manteaux qu'on nomme par corruption « redingotes ». L'assassin, ainsi vêtu, pénètre vers la garde, heurte en passant le dauphin, se fait place à travers la garniture des gardes du corps et des cent suisses, aborde le roi, le frappe de son canif à la 5e côte, remet son couteau dans sa poche et reste le chapeau sur la tête. Le roi se sent blessé, se retourne et à l'aspect de cet inconnu qui était couvert et dont les yeux étaient égarés, il dit « C'est cet homme qui m'a frappé, qu'on l'arrête et qu'on ne lui fasse point de mal !» Tandis que tout le monde était saisi d'effroi et d'horreur, qu'on portait le roi dans son lit, qu'on cherchait les chirurgiens, qu'on ignorait si la blessure était mortelle, si le couteau était empoisonné, le parricide répéta plusieurs fois
« Qu'on prenne garde à Monseigneur le Dauphin, qu'il ne sorte pas de la journée !»
À ces paroles, l'alarme universelle redouble. On ne doute pas qu'il n'y ait une conspiration contre la famille royale. Chacun se figure les plus grands périls, les plus grands crimes et les plus médités. Heureusement, la blessure du roi était légère. Mais le trouble public était considérable. Et les craintes, les défiances, les intrigues se multipliaient à la cour. Le grand prévôt de l'hôtel, à qui appartenait la connaissance du crime commis dans le palais du roi, s'empara d'abord du parricide et commença les procédures, comme il s'était pratiqué à Saint-Cloud dans l'assassinat d'Henri III. Un exempt des gardes de la prévôté ayant obtenu un peu de confiance, ou apparente ou vraie, dans l'esprit aliéné de ce misérable, l'engagea à oser dicter de sa prison une lettre au roi même. Damien, écrire au roi. Un assassin, écrire à celui qui l'avait assassiné. Sa lettre est insensée et conforme à l'abjection de son état, mais elle découvre l'origine de sa fureur. On y voit que les plaintes du public contre l'archevêque avaient dérangé le cerveau du criminel et l'avaient excité à son attentat. Il paraissait, par les noms des membres du Parlement cités dans sa lettre, qu'il les connaissait, ayant servi un de leurs confrères. Mais il eût été absurde de supposer qu'ils lui eussent expliqué leurs sentiments. Encore moins qu'ils lui eussent jamais dit ou fait dire un mot qui pût l'encourager au crime. Aussi le roi ne fit aucune difficulté de remettre le jugement du coupable à ceux de la grande chambre qui n'avaient pas donné leur démission. Il voulut même que les princes et les pairs rendissent, par leur présence, le procès plus solennel et plus authentique dans ses points aux yeux du public, aussi défiant que curieux exagérateur qui voit toujours, dans ses aventures effrayantes, au-delà de la vérité. Jamais en effet, la vérité n'apparut dans un jour plus clair. Il est évident que cet insensé n'avait aucun complice. Il déclara toujours qu'il n'avait point voulu tuer le roi, mais qu'il avait formé le dessein de le blesser depuis l'exil du Parlement. D'abord, dans son premier interrogatoire, il dit que la religion seule l'a déterminé à cet attentat. Il avoue qu'il n'a dit du mal que des molinistes et de ceux qui refusent les sacrements, que ces gens-là croient apparemment de Dieu. Il s'écria à la question
« Ah, je croyais faire une œuvre méritoire pour le ciel ! Ah, c'est ce que j'entendais dire à tous ces prêtres dans le palais !»
Il persista constamment à dire que c'était l'archevêque de Paris, les refus de sacrement, les disgrâces du Parlement qui l'avaient porté à ce parricide. Il le déclara encore à ses confesseurs. Ce malheureux n'était donc qu'un insensé fanatique, moins abominable à la vérité que Ravaillac et Jean Châtel, mais plus fou et n'ayant pas plus de complices que ces deux énergumènes. Les seuls complices, pour l'ordinaire, de ces monstres sont des fanatiques dont les cervelles échauffées allument, sans le savoir, un feu qui va embraser des esprits faibles, insensés et atroces. Quelques mots, dits au hasard, suffisent à cet embrasement. Damien agit dans la même illusion que Ravaillac et mourut dans les mêmes supplices. Quel est donc l'effet du fanatisme et le destin des rois? Henri III et Henri IV sont assassinés parce qu'ils ont soutenu leurs droits contre les prêtres. Louis XV est assassiné parce qu'on lui reproche de ne pas avoir assez sévi contre un prêtre. Voilà trois rois sur lesquels se sont portées des mains parricides, dans un pays renommé pour aimer ses souverains. Le père, la femme, la fille de Damien, quoique innocents, furent bannis du royaume, avec défense d'y revenir, sous peine d'être pendus. Tous ses parents furent obligés, par le même arrêt, de quitter leur nom de Damien, devenu exécrable. Cet événement fit rentrer en eux-mêmes, pour quelque temps, ceux qui, par leur malheureuse querelle ecclésiastique, avaient été la cause d'un si grand crime. On voyait trop évidemment ce que produisent l'esprit dogmatique et les fureurs de religion. Personne n'avait imaginé qu'une bulle et des billets de confession puissent avoir des suites si horribles. Mais c'est ainsi que les démences et les fureurs des hommes sont liées ensemble. L'esprit des poltrons et des Jacques Clément, qu'on avait cru anéantis, subsiste donc encore dans les âmes féroces et ignorantes. La raison pénètre en vain chez les principaux citoyens. Le peuple est toujours porté au fanatisme, et peut-être n'y a-t-il d'autre remède à cette contagion que d'éclairer enfin le peuple même. Mais on l'entretient, quelquefois, dans des superstitions, et on voit ensuite avec étonnement ce que ces superstitions produisent. Damien fut exécuté le 28 mars 1757, en place de Grève, sous les yeux d'une foule immense, y compris de dames de l'aristocratie. La main qui avait tenu le couteau fut brûlée avec du soufre. On lui entailla ensuite les membres et la poitrine, et on y introduisit du plomb fondu. Puis il fut écartelé, et son tronc fut finalement jeté dans les flammes. Voltaire et nombre d'esprits éclairés de son temps ne se sont pas émus de ce supplice atroce.
Toujours sous la plume de Voltaire, voici maintenant le récit de la guerre de 7 ans, une guerre qui durera de 1756 à 1763, une guerre menée contre la Prusse et l'Angleterre, qui se terminera après le désastre de Rosbach et après de nombreuses défaites dans les colonies. Une guerre qui se terminera par le traité de Paris, qui sera signé en 1763.
Mars 1757. La première perte des Français dans l'Inde fut celle de Chandernagore, poste important dont la compagnie française était en possession vers les embouchures du Gange. C'était de là qu'elle tirait ses plus belles marchandises. Depuis la prise de la ville et du fort de Chandernagore, les Anglais ne cessèrent de ruiner le commerce des Français dans l'Inde. Le gouvernement de l'empereur était si faible et si mauvais qu'il ne pouvait empêcher des marchands d'Europe de faire des ligues et des guerres dans ses propres états. Les Anglais eurent même la hardiesse de venir attaquer Surat, une des plus belles villes de l'Inde et la plus marchande, appartenant à l'empereur. Ils la prirent en mars 1758, ils la pillèrent, ils y détruisirent les comptoirs de France et en remportèrent des richesses immenses, sans que la cour, aussi imbécile que pompeuse du grand Mogol, parut se ressentir de cet outrage, qui eût fait exterminer dans l'Inde tous les Anglais sous l'empire d'un Aurangzeb. Enfin, il n'est resté aux Français dans cette partie du monde que le regret d'avoir dépensé pendant plus de 40 ans des sommes immenses pour entretenir une compagnie qui n'a jamais fait le moindre profit, qui n'a jamais rien payé aux actionnaires et à ses créanciers du profit de son négoce, qui dans son administration indienne n'a subsisté que d'un secret brigandage et qui n'a été soutenu que par une partie de la ferme du tabac que le roi lui accordait. Exemple mémorable et peut-être inutile du peu d'intelligence que la nation française a eu jusqu'ici du grand et ruineux commerce de l'Inde. En mai 1757, tandis que les flottes et les armées anglaises ont ainsi ruiné les Français en Asie, ils les ont aussi chassés de l'Afrique. Les Français étaient maîtres du fleuve du Sénégal, qui est une branche du Niger. Ils y avaient des forts. Ils y faisaient un grand commerce de dents d'éléphant, de poudre d'or, de gomme arabique, d'ambre gris, et surtout de ces nègres que tantôt leurs princes vendent comme des animaux, et qui tantôt vendent leurs propres enfants ou se vendent eux-mêmes pour aller servir des Européens en Amérique. Les Anglais ont pris tous les forts bâtis par les Français dans ces contrées et plus de 3 millions de tournois en marchandises précieuses. Le dernier établissement que les Français avaient dans ces parages de l'Afrique était l'île de Gorée. Elle s'était rendue à discrétion le 29 décembre 1758 et il ne leur est rien resté alors dans l'Afrique. Ils ont fait de bien plus grandes pertes en Amérique. Sans entrer ici dans le détail de 100 petits combats et de la perte de tous les forts l'un après l'autre, il suffit de dire que les Anglais ont pris le 26 juillet 1758 Louisbourg pour la seconde fois, aussi mal fortifié, aussi mal approvisionné que la première. Enfin, tandis que les Anglais entraient dans Surat à l'embouchure du fleuve Indus, le 2 mars 1759, ils prenaient Québec et tout le Canada au fond de l'Amérique septentrionale. Les troupes qui ont hasardé un combat pour sauver Québec le 18 septembre ont été battues et presque détruites malgré les efforts du général Montcalm, tué dans cette journée et très regretté en France. On a perdu ainsi, en un seul jour, 1500 lieues de pays. Ces 1500 lieues, dont les trois quarts sont des déserts glacés, n'étaient pas peut-être une perte réelle. Le Canada coûtait beaucoup et rapportait très peu. Si la dixième partie de l'argent englouti dans cette colonie avait été employée à défricher nos terres incultes en France, on aurait fait un gain considérable. Mais on avait voulu soutenir le Canada. Et on a perdu 100 années de peine avec tout l'argent, prodigué sans retour. Pour comble de malheur, on accusait des plus horribles brigandages presque tous ceux qui étaient employés au nom du roi dans cette malheureuse colonie. Ils ont été jugés au Châtelet de Paris, tandis que le Parlement informait contre Lally. Celui-ci, après avoir 100 fois exposé sa vie, l'a perdu par la main d'un bourreau, tandis que les concussionnaires du Canada n'ont été condamnés qu'à des restitutions et des amendes. Tant il est de différence entre les affaires qui semblent les mêmes. Dans le temps que les Anglais attaquaient ainsi les Français dans le continent de l'Amérique, ils se sont tournés du côté des îles. La Guadeloupe, petite mais florissante, où se fabriquait le meilleur sucre, est tombée entre leurs mains sans coup férir. Enfin, ils ont pris la Martinique, qui était la meilleure et la plus riche colonie qu'eut la France. Ce royaume n'a pu essuyer de si grands désastres sans perdre encore tous les vaisseaux qu'il envoyait pour les prévenir. À peine une flotte était-elle en mer qu'elle était ou prise ou détruite. On construisait, on armait des vaisseaux à la hâte. C'était travailler pour l'Angleterre dont il devenait bientôt la proie. Quand on a voulu se venger de tant de pertes et faire une descente en Irlande, il en a coûté des sommes immenses pour cette entreprise infructueuse. Et dès que la flotte destinée pour cette descente est sortie de Brest, elle a été dispersée en parties, ou prise ou perdue dans la vase d'une rivière nommée La Vilaine, sur laquelle elle cherchait un vain refuge. Enfin, les Anglais ont pris Belle-Île, à la vue des côtes de la France, qui ne pouvaient la secourir. Le seul duc d'Aiguillon vengea les côtes de France de tant d'affronts et de tant de pertes. Une flotte anglaise avait fait encore une descente à Saint-Cast, à Saint-Cas, près de Saint-Malo. Tout le pays était exposé. Le duc d'Aiguillon, qui commandait dans le pays, marche sur le champ à la tête de la noblesse bretonne, de quelques bataillons et de milices qu'il rencontre en chemin, 1er septembre 1758. Il force les Anglais de se rembarquer. Une partie de leur arrière-garde est tuée, l'autre faite prisonnière de guerre. Mais les Français ont été malheureux partout ailleurs. Au reste, quel a été le prix de ce service du duc d'Aiguillon et de son sang versé en Italie ? Une persécution publique et acharnée, presque semblable à celle de Lally, qui prouve que ceux-là seuls ont raison, qui se dérobent à la cour et au public. Jamais les Anglais n'ont eu tant de supériorité sur mer, mais ils en eurent sur les Français dans tous les temps. Ils avaient détruit la marine de la France dans la guerre de 1741. Ils avaient anéanti celle de Louis XIV dans la guerre de la succession d'Espagne. Ils étaient les maîtres des mers du temps de Louis XIII, d'Henri IV et encore plus dans les temps infortunés de la Ligue. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, eut le même avantage sur François Ier. Si vous remontez aux temps antérieurs, vous trouverez que les flottes de Charles VI et de Philippe de Valois ne tiennent pas contre celles des rois d'Angleterre, Henri V et Édouard III. Quelle est la raison de cette supériorité continuelle ? N'est-ce pas que les Anglais ont besoin de la mer, dont les Français peuvent à toute force se passer, et que les nations réussissent toujours, comme on l'a déjà dit, dans les choses qui leur sont absolument nécessaires ? N'est-ce pas aussi que la capitale est un port de mer, et que Paris ne connaît que les bateaux de la Seine ? Serait-ce enfin que le climat et le sol anglais produisent des hommes d'un corps plus vigoureux et d'un esprit plus constant que celui de France, comme il produit de meilleurs chevaux et de meilleurs chiens de chasse ? Mais depuis Bayonne jusqu'aux côtes de Picardie et de Flandre, la France a des hommes d'un travail infatigable et la Normandie seule a subjugué autrefois l'Angleterre. La France alors était plus malheureuse. Toutes les ressources étaient épuisées. Presque tous les citoyens, à l'exemple du roi, avaient porté leur vaisselle à la monnaie. Les principales villes et quelques communautés fournissaient des vaisseaux de guerre à leurs frais. Mais ces vaisseaux n'étaient pas construits encore. Et quand même ils l'auraient été, on n'avait pas assez d'hommes de mer exercés. Les malheurs passés en faisaient craindre de nouveau. La capitale, qui n'est jamais exposée au fléau de la guerre, jetait plus de cris que les provinces souffrantes. Plus de secours, plus d'argent, plus de crédit. Ceux qu'on choisissait pour régir les finances étaient renvoyés après quelques mois d'administration. Les autres refusaient cet emploi, dans lequel on ne pouvait alors que faire du mal. le 10 février 1768. Dans cette triste situation qui décourageait tous les ordres de l'État, le duc de Pralin, ministre alors des Affaires étrangères, fut assez habile et assez heureux pour conclure la paix, dont le duc de Choiseul, ministre de la guerre, avait entamé les négociations. Le roi de France échangea Minorque, qu'il rendit au roi d'Espagne, contre Belle-Île, que l'Angleterre lui remit. Mais l'on perdit, et probablement pour jamais, tout le Canada, avec ce Louisbourg qui avait coûté tant d'argent et de soins pour être si souvent la proie des Anglais. Toutes les terres sur la gauche du grand fleuve Mississippi leur furent cédées. L'Espagne, pour arrondir leur conquête, leur donna encore la Floride. Ainsi, du 25e degré jusque sous le pôle, presque tout leur appartint. Ils partagèrent l'hémisphère américain avec les Espagnols. Ceux-ci ont les terres qui produisent les richesses de convention. Ceux-là ont des richesses réelles qui s'achètent avec l'or et l'argent. Toutes les denrées nécessaires, tout ce qui sert aux manufactures. Les côtes anglaises, dans l'espace de 600 lieues, sont traversées par des fleuves navigables qui leur portent leurs marchandises jusqu'à 40 et 50 lieues dans leurs terres. Les peuples d'Allemagne se sont empressés d'aller peupler ces pays, où ils trouvent une liberté dont ils ne jouissaient point dans leur patrie. Ils sont devenus anglais. Et si toutes ces colonies demeuraient unies à leur métropole, il n'est pas douteux que cet établissement ne fasse un jour la plus formidable puissance. La guerre avait commencé pour 2 ou 3 chétives habitations et ils y ont gagné 2000 lieues de terrain. Les petites îles de Saint-Vincent, les Grenades, Tabago, la Dominique, leur furent encore acquises. Et c'est par le moyen de ces îles, ainsi que par la Jamaïque, qu'ils font un commerce immense avec les Espagnols. Commerce sévèrement prohibé et toujours exercé, parce qu'il est favorable aux deux nations, et que la loi de la nécessité est toujours la première. La France ne put obtenir qu'avec beaucoup de difficultés le droit de pêche vers Terre-Neuve, et une petite île inculte, nommée Miquelon, pour y faire sécher la morue. Sans pouvoir y faire le moindre établissement, triste droit sujet à de fréquentes avanies. La France, à laquelle on rendit Pondichéry et quelques comptoirs, fut exclue dans l'un de ses établissements sur le Gange. Elle céda ses possessions sur le Sénégal en Afrique, mais on lui remit Gorée. On fut encore obligé de démolir toutes les fortifications de Dunkerque du côté de la mer. L'État perdit, dans le cours de cette funeste guerre, la plus florissante jeunesse. Plus de la moitié de l'argent comptant qui circulait dans le royaume. Sa marine, son commerce, son crédit. On a cru qu'il eût été très aisé de prévenir tant de malheurs, en s'accommodant avec les Anglais pour un petit terrain litigieux vers le Canada. Mais quelques ambitieux, pour se faire valoir et se rendre nécessaires, précipitèrent la France dans cette guerre fatale. Il en avait été de même en 1741. L'amour-propre de 2 ou 3 personnes suffit pour désoler toute l'Europe. La France avait un si pressant besoin de cette paix qu'elle regarda ceux qui la conclurent comme les bienfaiteurs de la patrie. Les dettes dont l'État demeurait surchargé étaient plus grandes encore que celles de Louis XIV. La dépense seule de l'extraordinaire des guerres avait été en une année de 400 millions, qu'on juge par là du reste. La France aurait beaucoup perdu, quand même elle eût été victorieuse. Les suites de cette paix si déshonorante et si nécessaire furent plus funestes que la paix même. Les colons du Canada aimèrent mieux vivre sous les lois de la Grande-Bretagne que de venir en France. Et quelque temps après, quand Louis XV eut cédé à la couronne d'Espagne la Nouvelle-Orléans et tout le pays qui s'étend sur la rive droite du Mississippi, il arriva, pour comble de douleur et d'humiliation, que les officiers du roi d'Espagne condamnèrent à être pendus les officiers du roi de France qui ne se soumirent à eux qu'avec répugnance. Le procureur général, son gendre, d'anciens capitaines chevaliers de Saint-Louis, des négociants, des avocats ayant fait quelques représentations sur les formalités qu'il convenait d'observer, le commandant envoyé d'Espagne les invita à dîner. On leur fit leur procès au sortir de table, on les condamna à la corde et par grâce, on les arquebusa. Ce qui est, dit-on, plus honorable. Le commandant qui fit cette étrange exécution était ce même O'Reilly, Irlandais, au service d'Espagne, qui fit battre depuis l'armée espagnole par les Algériens. Cette défaite a été publique en Europe et en Afrique, et l'indigne mort des officiers du roi de France dans la Nouvelle-Orléans est encore ignorée. « 15 meurt de la petite vérole, la variole, le 10 mai 1774, au château de Versailles. Voltaire prononça son éloge funèbre dans une académie.